Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de faire un peu de silence pour laisser la parole à nos intervenants.
Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Devrient. Je suis responsable numérique pour le réseau des médiathèques de Choisy-le-Roi. Et j'ai coordonné l'ouvrage Jouer en bibliothèque. Aujourd'hui, donc, une table ronde jeux vidéo pour essayer d'imaginer ensemble un petit peu ce qu'on peut faire autour du jeu vidéo en bibliothèque au-delà d'une collection. Et avec moi, donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc, Marc Guimau de la BPI, qui s'occupe de l'espace jeux vidéo qu'il a même créé carrément ex nihilo, comme c'est indiqué sur la présentation, et qui est au sein du service Nouvelle Génération. Et avec moi également Walid Anna, qui remplace au pied levé Mehdi Akouche, qui n'a pas pu être présent. Et Walid, donc, du coup, de formation, qui est game designer et qui, maintenant, depuis quelques années, est bibliothécaire. Bibliothécaire, animateur multimédia, on en parlera après. Animateur multimédia. On m'a demandé dans un premier temps de faire un petit retour rapide sur la présence du jeu vidéo en bibliothèque. Je m'excuse par avance pour ceux qui sont déjà au fait. Et voilà, pour les autres, j'espère que ce sera suffisamment informatif pour vous. Alors, le jeu vidéo, en fait, le truc, c'est comme ça a été rappelé plein de fois depuis ce matin, c'est pas une nouveauté. En gros, finalement, en tout cas, moi, la manière dont je l'interprète, c'est que on a vu toute une génération de bibliothécaires qui a grandi avec le jeu vidéo aussi et qui arrive à un moment donné en poste, en bibliothèque, et qui arrive aussi à des postes de responsabilité, qui est aussi en mesure du coup de pouvoir appuyer ces nouveaux supports et de pouvoir les introduire au sein des collections. Mais le jeu vidéo finalement n'a pas trop attendu ça. Le jeu vidéo était déjà présent sur vos PC, que vous le vouliez ou non, avec plein de jeux gratuits qui existaient. Et alors du coup, ça a suscité pas mal de questions, etc. Le jeu vidéo aussi prend une grande place également récemment avec l'arrivée en masse et l'équipement des tablettes en bibliothèque, où là effectivement on voit toute une collection de jeux vidéo, notamment indépendants, d'une grande qualité, avec certains jeux parfois même avec des mécaniques de jeu très particulières. Je vous conseille Bundun, allez regarder. Voilà, c'est cadeau. Et du coup, enfin voilà, vous allez voir, on a vraiment des jeux de grande, grande qualité. Vous allez apprendre à danser avec Bundun, c'est un truc incroyable. Donc bref, en gros, si ce n'était pas clair, le jeu vidéo n'est pas une nouveauté. J'ai fait un peu d'archéologie, de proto-histoire du jeu vidéo en bibliothèque, et la trace la plus ancienne que j'ai réussi à retrouver, c'est la présence de... c'était une animation ponctuelle, on n'est pas encore sur un espace jeu vidéo bien, bien élaboré, mais la petite bibliothèque ronde qui, dès 85, faisait des choses autour sur Apple II. Un peu plus tard, on voit arriver la Logitech de Metz également, qui avait mis en place un service sur lequel on pouvait aller emprunter des logiciels. Parmi ces logiciels qu'on pouvait emprunter, il y avait des jeux vidéo. Alors malheureusement, il n'était pas possible de jouer sur place parce que ça faisait quand même un peu trop de bruit, mais on avait quand même au moins la possibilité de les emprunter. Et puis, la consécration, le vaisseau mère accueille le jeu vidéo en grande pompe en 92. Voilà, l'arrivée au dépôt légal. La citation qui est affichée ne date pas de 92, elle date de 2002. Mais toutefois, on voit que le jeu vidéo arrive petit à petit à une reconnaissance en tant qu'œuvre culturelle, finalement, à part entière et pleinement légitime. Toutefois, comme vous pouvez vous en douter, ça n'a pas été sans mal. Il a été encore rappelé ce matin que plus de 60% de la population française ne considère pas le jeu vidéo finalement comme une œuvre culturelle. Donc là, vous voyez, on a des gens qui pensent que ne font aucun effort, etc. Et tout. Sauf que comme ça nous a été rappelé ce matin par Baptiste lors de sa présentation, en fait, la question de la légitimité d'une œuvre culturelle, c'est pas un débat nouveau en fait en bibliothèque. Et donc du coup, les paniques morales qu'on peut retrouver régulièrement à l'introduction de chaque nouveau support, voilà, on le retrouvait déjà avec le cinématographe et on le retrouve encore avec le jeu vidéo, la réalité virtuelle et que c'est encore, c'est un truc qui reviendra régulièrement. Toutefois, il faut être optimiste malgré les 60%. Le monde change, et le monde change par petites touches, et il faut être attentif à ces petites touches. Il y a quelques temps, il y avait Assassin's Creed qui se passait en France, qui prenait place pendant la Révolution française, Et un politique a pris la parole, alors il s'agissait de Mélenchon, qu'on soit d'accord avec, peu importe, mais il a pris la parole, il a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec ce jeu vidéo. En tout cas, il n'était pas d'accord avec l'interprétation qui était donnée de la Révolution française dans ce jeu-là. Et c'était important parce que finalement, c'était la première fois où on nous parlait du jeu vidéo pour son contenu, pour le fond, et pour une fois, on ne nous parlait pas sur la forme, les questions de violence, les questions d'addiction, etc. Et donc, en parler sérieusement comme ça, bah finalement, on reconnaît son statut d'œuvre. Et c'est ça qui était intéressant sur ce coup-là. Et puis, on a d'autres citations quand même qui sont un peu plus enthousiasmantes. Alors celle-là, elle ne date pas de 1930. Celle-là, elle est beaucoup plus récente. Il s'agit de Salman Rushdie, qui du coup s'intéresse du coup, à la possibilité, et finalement c'est ça que va offrir le jeu vidéo, va offrir la possibilité de vivre plein d'histoires de manière différente. Et Marc nous en parlera tout à l'heure aussi. Alors pour retrouver la présentation, l'extrait, je vous encourage à lire cet article de Xavier Delaporte qui est super intéressant sur la question. Bref, tout ça pourquoi ? Pour enfoncer une porte ouverte, à savoir que, comme on le sait, il n'y a pas qu'une seule lecture, il n'y a pas qu'un seul lecteur, il n'y a pas qu'un seul livre. Eh ben, c'est exactement la même chose pour le jeu vidéo. Il n'y a pas qu'un seul joueur de jeu vidéo, on n'a pas qu'une seule expérience de jeu. Les expériences sont multiples. Et là où, en fait, finalement, on a finalement, si le jeu vidéo est victime d'une mauvaise image quelque part, c'est parce qu'on reste assez cloisonné dans une vision peut-être trop grand public du jeu vidéo, à savoir le jeu vidéo égale Call of Duty, le jeu vidéo égale FIFA, éventuellement Mario, etc. Mais finalement, c'est le problème de toutes les industries culturelles. C'est comme réduire le cinéma à Transformers ou la musique à To Be Free, par exemple. Voilà. Non, mais, à un moment donné. Bref, voilà. Du coup, on voit d'autres créateurs qui apparaissent, et c'est ça en fait qui est intéressant là, ces dernières années, c'est qu'on revoit apparaître petit à petit cette figure du créateur de jeux vidéo qu'on avait un peu perdu. Hein. Qui serait capable de me donner le nom du créateur de FIFA ? Enfin, moi-même, j'en suis incapable. Voilà. Mais petit à petit, on revoit, grâce notamment à l'émergence du jeu sur tablette, on voit de plus petites équipes. Et donc, du coup, on revoit arriver cette figure du créateur et des gens qui ont des propos et qui réfléchissent sur la mécanique de gameplay. Donc, si vous êtes intéressé par d'autres expériences de jeu, je peux que vous encourager à aller regarder, au moins pour démarrer, le site de l'Independent Game Festival qui fait une sélection là-dessus qui est assez intéressante. Et juste pour terminer, histoire de, qu'on puisse rentrer le plus vite possible dans le vif du sujet... le jeu vidéo même peut carrément arriver à un discours extrêmement politique et porter un regard sur le monde, au-delà de raconter une histoire, mais même apporter une critique sociale du jeu. Et alors là, c'est un collectif italien qui s'appelle la Mole Industria et qui porte des jeux extrêmement politiques. Vous avez un jeu dans lequel vous incarnez un pilote de drone, un jeu sur l'aliénation au travail, un jeu sur l'impact social des fast-foods sur la société, etc., etc. Voilà, juste pour vous dire que le jeu vidéo est très très vaste et que donc du coup à partir de là on a une multiplicité possible des actions d'animation, etc. Voilà, excusez-moi, je vais boire un coup.
C'est gentil,
merci beaucoup. Alors, du coup, pour continuer un petit peu tout ça, on a donc choisi deux exemples d'animation, d'action d'animation autour du jeu vidéo qui ont été réalisés par Walid et par Marc. On va commencer avec toi, Walid, si tu veux bien. Et donc, du coup, Walid, tu vas nous présenter un peu ton atelier, l'animation, pardon, le festival Bib Invaders.
Alors, bonjour. Juste avant, je voudrais juste faire une parenthèse sur ce que tu viens de dire ici. Le fait que le jeu vidéo puisse s'attaquer à des sujets sérieux ou des choses à débat, c'est un peu la preuve aussi que c'est une œuvre d'art, de la création, qui est là pour s'attaquer à certaines thématiques ou certains sujets qui touchent tout le monde. Voilà, hop, je ferme la parenthèse et je reprends sur Bib Invaders. Alors, Bib Invaders, ça a commencé en 2012 à peu près, sous l'impulsion de... peut-être une dizaine d'animateurs multimédia sur la métropole, qui était la Cube à l'époque. L'objectif, en gros, c'était de réussir à rassembler toutes nos ressources, toute notre volonté, toute notre envie de faire découvrir le jeu vidéo. Et comme on n'avait pas beaucoup de moyens, que c'était pas, c'est pas toujours facile de réussir à faire des gros événements autour du jeu vidéo, de dire, bah voilà, si on se met à plusieurs, on peut peut-être réussir à faire des choses plus importantes. Donc la première année, l'action phare qui avait vraiment mutualisé l'ensemble de ces groupes avait été de faire du rétro gaming en faisant venir des bandes d'arcade. Donc ça avait très bien marché. On s'était retrouvé, voilà, les bandes d'arcade tournées de commune en commune, de semaine en semaine. Et notre quinzaine Bibi Invader s'est étendue sur presque deux mois et demi, avec un intervenant qui suivait les bornes et qui faisait des animations sur place, qui faisait des démonstrations. Donc ça, c'était vraiment le truc majeur. Après, autour de ça, chaque commune avait ses propres animations. Donc des expositions de vieilles revues, des expositions de vieilles consoles pour tout ce qui était rétro gaming, mais aussi des animations un peu plus originales. On a eu des choses autour du jeu indépendant. Aujourd'hui, avec Internet, on avait la possibilité aussi de faire jouer à des jeux qu'on mettait en accès libre sur les ordinateurs, que tout le monde fait chez lui, les jeux gratuits, etc. Mais du coup, cette fois, dans un cadre un peu plus particulier. Il y a eu des challenges, des tournois. On a même eu un groupe d'artistes qui était venu créer un jeu où il fallait reproduire la vague d'Okusai, voilà, celle-ci, en manipulant une bûche. Donc voilà, il y a eu des trucs assez originaux. Alors là, maintenant, je vais sortir discrètement ma petite... Si je la retrouve... Ah. Non, parce que quand on est pris au pied levé, il vaut mieux marquer des trucs. Alors, on a aussi eu beaucoup de rencontres avec donc des gens spécialisés dans l'histoire du jeu vidéo, parce qu'on se rend compte que les gens ne savent... Enfin, c'est plus facile pour les gens de comprendre le jeu vidéo quand ils voient d'où on vient. C'est vrai que quand vous regardez Pac-Man et que vous regardez Assassin's Creed, typiquement, enfin, ça n'a rien à voir. Il y a eu une évolution monstrueuse. Alors, en peinture, on comprend qu'il y a eu des mouvements, des changements, etc. En littérature, pareil. Ben, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Il y a également eu des grandes étapes, des jeux phares, des grandes périodes. Donc, on a pas mal parlé d'histoire. On a parlé aussi de la... Alors, ça, c'était plus l'année d'après. De la psychologie, de l'impact, parce que c'est une préoccupation générale autour du jeu vidéo. Voilà. Grandir avec les jeux vidéo, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne des psychopathes ou est-ce que ça rend les gens intelligents? Si, si. Voilà. Après, donc moi, avec mon passé, j'ai aussi été sollicité pour présenter comment on faisait un jeu vidéo, qu'est-ce que c'était que la vie dans le jeu vidéo, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui se posent la question. Ah, quand je serai grand, je veux faire du jeu vidéo. Oui, c'est pas si facile que ça, c'est un métier quand même, donc c'était aussi intéressant de parler de ça. Et puis, il y a aussi eu toutes les animations autour du jeu vidéo, mais qui n'en étaient pas. Les post-itoires ou les créations de personnages, des expositions papier, voire en bois découpé et peint. À Gradignan, ils sont très forts pour ça. Voilà, donc ça, c'était la première, deuxième année. Ça a très bien marché. La troisième année, donc je n'y étais pas, mais ça a commencé à se calmer un petit peu. Déjà parce qu'on a arrêté de travailler avec celui qui faisait passer les bornes d'arcade. Déjà parce qu'un an, c'est bien, deux ans, c'est bien. Troisième année, c'est un peu connu, on essaie de renouveler le truc, et puis bon, voilà, c'était un petit peu plus difficile. Curiosité, c'était MO5 ? Comment ? Alors non, c'était pas...
excusez-moi.
Oui. Oui. Alors, pour les jeunes... voilà. D'accord. Une borne d'arcade, c'est comme un distributeur de boissons ou de barres chocolatées, sauf qu'à la place, on a un écran, une manette, on met des pièces dedans et on peut jouer. À oui. Un, à deux, avec...
Oui. Juste une petite précision pour rappeler un peu ce qu'est le rétro, ce qu'on appelle le rétro gaming, c'est le fait de jouer à des jeux vidéo qui datent des années 80, enfin 70, 80.
70, 80, 90.
Voire même maintenant, début 2000, on prend un coup de vieux aussi. Mais voilà, c'est pour resituer un petit peu. Mais alors du coup, j'ai une question, parce qu'on voit beaucoup de bibliothèques qui font du rétro gaming, beaucoup de bibliothèques municipales qui n'ont pas spécialement pour mission de faire du patrimoine. Du coup, est-ce que finalement, je l'ai rappelé, hein, on a toute une génération qui a grandi avec ces jeux-là, est-ce que ce n'est pas un moyen pour pas mal d'animateurs, de médiateurs numériques, finalement de se faire plaisir au détriment de toute politique documentaire en jouant à des jeux auxquels ils ont joué et se dire mais si Quackshot c'était un super jeu, etc. Ouais, bon, bref.
Tu me cherches.
Oui, volontairement.
Ok, alors, bon, moi je suis un peu anti-rétro gaming. Parce que c'est un peu comme si vous vouliez faire une animation sur la littérature et que vous présentiez que des vieux ouvrages du 17e, 18e, 19e. Et puis pas de trucs trop récents parce que bon. Le rétro gaming, c'est bien une fois, deux fois, et puis après il faut arrêter. Il y a une production gigantesque, hyper variée, hyper intéressante aujourd'hui. Et c'est dommage de dire que le jeu vidéo, ce n'est que du rétro gaming. Donc, pour répondre à ta question, je pense que oui. Les gens qui disent on va faire l'animation jeu vidéo, on va faire du rétro gaming, ouais, il y a Pac-Man, tout ça, c'est super. Alors oui, c'est bien, on peut faire la médiation, tout le monde y a plus ou moins joué. Voilà, donc tout le monde connaît un petit peu, ça permet de faire du transgénérationnel, très bien. Mais le jeu vidéo, c'est pas que ça. Ça, c'est vraiment les ancêtres et les débuts. Ça permet de comprendre un peu d'où on vient, ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres choses, en particulier sur l'indépendant, sur la possibilité de créer soi-même ses propres jeux. Il y a des petits outils qui existent pour ça, qui permettent d'apprendre. Et surtout, oui, la diversité, elle est gigantesque, quoi.
Bon, juste en aspect positif, parce qu'on en avait discuté, tu me disais que bon, vous l'aviez fait plusieurs années de suite, et à chaque fois, vous constatiez aussi qu'il y avait un groupe de personnes qui revenaient. Donc, on a aussi un effet communauté qui arrive. Donc, ça, c'est peut-être à mettre au crédit, justement, du rétro gaming.
Ouais, d'accord. Non, c'est vrai qu'un événement autour du rétro gaming, typiquement avec les bornes d'arcade, donc ces espèces d'énormes cubes qu'on pouvait placer dans la bibliothèque et où les gens arrivaient, hop, ils s'installaient dessus, ils jouaient, ils montraient à leurs gamins « Ah, regarde, moi je jouais à ça quand j'avais... il y a longtemps. » Bon, c'est sûr qu'on fait ça une fois, on le refait l'année prochaine à peu près à la même période. Bah, les gens se disent « Ah, chouette, bah, tous les ans on peut revenir, il va y avoir quelque chose autour du rétro gaming, on va retrouver nos bornes d'arcade, on va revenir jouer. » Donc il y a effectivement cet effet qui est assez positif. Maintenant, si je regarde à Gradignan, ils ne font pas que du rétro gaming, c'est-à-dire qu'ils présentent vraiment tous les avantages jusqu'aux jeux contemporains. Il y a des jeux d'aujourd'hui, etc. Donc l'événement est bien là, mais on ne fait pas que du rétro gaming. On touche vraiment à tout. On prend le large panel.
Super, merci. Vas-y.
Et puis finalement, avec le rétro gaming, on se retrouve à avoir toujours le même catalogue de jeux à présenter, c'est-à-dire Pong... comme tu disais, Quackshot, enfin voilà.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, des bons vieux jeux, il y en a plus 50 000, quoi.
Voilà, c'est clair.
Pardon. Du coup, bah, enchaînement parfait. Du coup, si on ne fait pas de rétro gaming, tu dis, on peut partir sur d'autres productions. Et là, du coup, Marc...
Sans rétro gaming, que fait-on ?
Voilà, c'est ça. Alors, tu vas nous parler donc de Prestart, un événement qui a lieu déjà depuis plusieurs années, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, à la BPI.
Non. Hop.
PDF.
J'espère que c'est bien le bon truc. Hein. Je vous ai pas mis un dossier en PowerPoint. Yes. Et diaporama affichage.
CTRL-L.
Merci. Et voilà. Oui, éventuellement, avec la télécommande. Alors, donc, je vais vous présenter ce qui se passe à la BPI. Globalement, je vais parler de Prestart, mais aussi vous parler du service nouvelle génération, parce que les deux sont liés. S'il n'y avait pas eu de service nouvelle génération, il n'y aurait pas eu de Prestart à la Bibliothèque publique d'information. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Alors, nous avons quand même, parce que ce n'est pas du tout un ludothécaire qui vous parle, c'est un bibliothécaire. Je n'ai eu aucune formation, je vous prie de bien vouloir m'en excuser en matière de jeux vidéo. J'ai eu l'immense honneur d'être choisi par la bibliothèque, surtout en fonction d'un background personnel. Le fait d'avoir 48 ans, avoir eu... une vingtaine d'années dans les années 80, y avoir beaucoup pratiqué le jeu vidéo m'a aidé pour obtenir ce poste. Donc le souhait original de la direction de la
Pardon,
bibliothèque...
Pardon, excuse-moi, je t'interromps. Du coup, est-ce que c'est une revanche personnelle que tu prends vis-à-vis de tes parents qui te reprochaient de passer peut-être trop de temps sur le jeu à jouer quand tu étais jeune?
Bien au contraire. J'ai harcelé mes parents, excusez-nous pour cette digression, j'ai harcelé mes parents pour obtenir à l'époque un ZX Spectrum qui n'est pas du tout une borne d'arcade, mais qui était un des premiers ordinateurs individuels édités chez Sinclair en Angleterre. Et c'était, sous le fallacieux prétexte d'utiliser un ordinateur à la maison, la possibilité de pouvoir jouer à des jeux qui, à l'époque, se diffusaient via des cassettes audio. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être, charger un jeu avec une cassette audio. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans le rétro gaming et on n'est pas encore du tout dans Prestart, on est dans le service nouvelle génération. Je reprends mes petites notes parce que moi aussi, après tout, je suis venu avec une anti-sèche qui s'éteint. Bon, la mienne, elle s'éteint, elle n'est pas dans ma poche. Donc le souhait de la direction de la bibliothèque était d'avoir un service en fait pour amener à la bibliothèque les nouvelles pratiques culturelles d'aujourd'hui. Comment dire, on ne met pas à la bibliothèque publique d'information des jeux vidéo pour faire venir des gens parce qu'on a déjà une file d'attente monstrueuse. Je ne devrais pas le dire parce qu'en principe, il paraît qu'elle n'existe plus, mais enfin, ceci dit, on est souvent en saturation, on va dire. Et cette saturation fait qu'on n'a pas besoin de mettre du jeu vidéo à la bibliothèque pour faire venir des gens. Par contre, amener ces nouvelles pratiques culturelles à la bibliothèque était indispensable parce que voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. Donc, avoir des animations autour du do-it-yourself, amener des pratiques cross-média, ces cultures décloisonnées, et amener les gens à décrypter l'univers qui les entoure était super important pour la bibliothèque. Donc les grands axes de ce service, c'est un cœur de cible qui existe, parce qu'il y a 60% du public de la bibliothèque sont des étudiants. Donc on a déjà le potentiel à l'intérieur de la bibliothèque. Et il fallait aussi du coup se préoccuper des œuvres et des expériences culturelles qui font cette culture qui existe à l'heure actuelle. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un espace dédié aux livres, malgré tout, hein, on reste des bibliothécaires. C'est ici. Un salon jeux vidéo, donc avec à l'heure actuelle 4... pas 4 bandes d'arcade du tout, non, avec 4 consoles disponibles en accès libre. On a imité pour ça nos collègues qui font de la musique dans la bibliothèque. Il y a un piano accessible avec un petit ticket. On donne un ticket pour un accès d'une heure. Si les gens veulent jouer, ils viennent jouer librement. S'ils souhaitent être tranquilles, ils prennent un ticket. Alors, donc, nous faisons des valorisations, justement, pour mettre en avant ces pratiques cross-médiatiques, nous mettons en parallèle les collections, ce qui est choisi par ma collègue, enfin nous choisissons un thème ensemble, et ma collègue qui s'occupe du fond papier va choisir une sélection d'ouvrages sur le thème, et moi de mon côté je vais faire une sélection également de jeux pour une période, on fait ça à peu près tous les un mois et demi, deux mois. Autour des valorisations, autour du jeu vidéo, une fois par mois, je mets en avant un thème. Alors, c'est à mon entière discrétion. J'ai l'avantage d'avoir eu une hiérarchie et d'avoir actuellement une hiérarchie qui me laisse les mains libres pour mes choix. Donc, j'ai fait aussi bien de la musique que, à nouveau, de la littérature et le jeu vidéo. Là, vous pouvez voir des gens qui jouent à l'occasion d'un salon de l'auto. Ils jouent au jeu autour de l'auto et de la moto. Donc ça consiste pendant une après-midi de faire découvrir, alors aussi bien des jeux qui marchent très bien, je ne m'interdis aucun jeu, ça peut être un Grand Turismo ou un jeu beaucoup plus confidentiel, enfin voilà, le but c'est vraiment de faire découvrir une production autour d'un thème. Alors donc dans cette action culturelle, nous avons des cycles d'ateliers. Notamment, comme vous pouvez le voir ici, il y a le cycle Do It Yourself autour des instruments de musique insolites. pouvez voir ce que ça donne quand on fait ça dans à l'intérieur du salon. Le salon jeux vidéo est un salon en fait qui nous sert un petit peu à tout. On fait aussi bien du bricolage, comme vous pouvez le voir, où on transforme des outils de cuisine en instruments de musique. On a eu un atelier de skateboard également qui a eu beaucoup de succès. Et donc tout ceci nous amène à Prestart. Et Prestart, en fait, c'est la concrétisation annuelle des pratiques autour du jeu vidéo. Je retrouve ma petite note autour de Prestart. Donc c'est pour faire découvrir les coulisses de la fabrication du jeu vidéo, faire connaître les compétences, parce que comme on le disait tout à l'heure, le jeu vidéo c'est un métier, et quand on a des gens dans la bibliothèque qui font « ouais, je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo, je voudrais devenir créateur de jeux vidéo », ben, c'est un métier, tout s'apprend, et c'est un métier aux multiples facettes, puisque ça concerne aussi bien le design, le gameplay, la musique, enfin voilà, multifacettes. Donner la diversité, donner un aperçu de la diversité des jeux, donc amener aussi bien du jeu grand public aussi bien que du jeu indépendant, offrir des expériences de jeux différentes, montrer la créativité du jeu vidéo comme objet culturel d'aujourd'hui, avec des créations artistiques étonnantes, comme faire venir l'an passé un duo d'artistes américains qui s'appelle Foki Loki, qui font à partir du jeu vidéo Little Big Planet, ils prennent le personnage, ils prennent les décors et ils en font des interprétations numériques à eux, qui deviennent de véritables objets culturels. Du coup, là, on se rapproche vraiment de ce qui se fait au Centre Pompidou, parce qu'il y a un aspect très... Ça devient assez abstrait, en fait, ce qu'ils font. À nouveau mes notes... Prochaine fois, je le ferai sur papier. Alors, donc l'année dernière, ici, vous pouvez voir ce qui s'est fait en 2015, avec des démonstrations de jeux en réalité virtuelle avec des associatifs. Nous avons fait une battle de Mash Machine qui peut, voilà... amener de notre part beaucoup d'interactions à la fois avec nos collègues et avec le public, parce qu'il faut prévenir en amont, ça se passe à l'intérieur de la bibliothèque.
Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu plus ce que c'est que le Mash Machine, s'il te plaît?
Vous avez, donc là c'est sur la... Ici, c'est Mash Machine, et vous avez du coup des gens qui font de la musique avec des objets connectés, ils les bougent sur un support, et en fonction des mouvements créés, ça fait de la musique. Donc c'est à la fois du jeu vidéo, parce que on bouge des objets connectés sur un support et avec des créations musicales autour. De l'autre côté, c'était des expériences de réalité virtuelle avec les casques d'Oculus Rift qui étaient proposés par une association. Nous avons eu l'avantage d'avoir des bons contacts avec les gens de chez Ubisoft qui sont du coup venus montrer les différentes facettes du métier. Cette année, nous avons pu organiser une game jam.
Donc, je peux préciser.
Bien sûr. Pendant 48 heures, il s'agit de créer un jeu. En principe, les gens qui viennent pour cette game jam ne sont pas au courant du thème. Cette année, le thème était, puisque le Centre Pompidou accueille une exposition Magritte, était autour de la trahison des images, le nom du tableau. Et du coup, de l'expo, pardon. Et du coup, pendant 48 heures, du vendredi soir au dimanche soir, trois équipes de cinq personnes ont été amenées à créer un jeu vidéo. Alors, le laps de temps était un petit peu court pour avoir un produit fini et vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Mais du coup, ils ont quand même réussi à faire quelque chose. Le dimanche soir, ils avaient un petit début à montrer. Et nous ferons certainement cette année un mercredi jeu vidéo spécial destiné à montrer à la fois la production des gens qui faisaient partie de la Game Jam, ainsi que certaines productions de Game Jam un peu particulières, un petit peu voilà, avec des produits finis intéressants à montrer. Nous avons également fait venir une expérience d'un autre collectif, ça s'appelle La Machine à être un autre, que vous pouvez retrouver sur internet, The Machine to be another, qui consiste ici à porter du coup un Oculus Rift et à se retrouver en fait projeté, là vous voyez la personne debout qui regarde sa main et derrière lui vous avez des écrans. En fait, la personne qui est debout se voit debout sur un pont et elle est invitée à imiter les gestes. Et par imitation, en fait, c'est la personne de, et se croit à la place de ce qu'elle voit, en fait. Donc il y avait cette partie-là et une autre partie qui consistait à imiter en direct les gestes d'une personne qui était en face d'elle. Et à chaque fois, c'est assez troublant, en fait. On a vraiment l'impression d'être porté dans le corps de l'autre. Donc là, c'est l'utilisation des outils liés aux jeux vidéo, comme l'Oculus Rift, qui sont un peu détournés pour arriver à obtenir des expériences sensorielles, sociales aussi, parce que on se retrouve avec des usagers de la bibliothèque qui se sont inscrits au préalable ou qui sont venus juste parce que l'expérience et les intriguait et qui se retrouvent à faire des choses à l'intérieur de la bibliothèque qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils venaient au départ. Ça, ce sont les ateliers jeux indépendants que je mène tous les ans, où j'essaye de faire découvrir justement autre chose que du FIFA ou du Call of Duty, avec tout ce qui m'interpelle moi en tant que joueur et en tant que bibliothécaire curieux pour faire découvrir à nos usagers. Nous faisons aussi des rencontres avec des collectifs. Ici, c'est le collectif Alinéaire qui nous a amené des jeux hors normes, donc avec une grosse manette. Et ici, en fait, vous avez une grosse manette et un petit écran pour un jeu qui s'appelle Super, qui va très vite. En fait, plus vous jouez, plus l'expérience est rapide. Et l'autre, ça s'appelle Coin Coin contre Minou. Et dans cette expérience, vous devez juste sauter plus haut que l'autre équipe pour attraper un bonbon. C'est pas tant le jeu en soi que l'expérience en fait induite à nouveau dans une bibliothèque de faire ce genre d'activité et de les faire pas forcément avec des gens que vous connaissez. Donc voilà. Voilà, ça c'était juste à la fin. Voilà pour Prestart.
Merci. Oui, si, vous pouvez applaudir, vous avez le droit. Hein, ça me permet de meubler comme ça, c'est très bien. Merci. Donc là, du coup, on a deux temps forts qui sont d'une grande qualité. Et on voit effectivement d'un côté le rétro gaming et de l'autre côté, on va sur des choses un peu plus arty, on va dire. Finalement, j'étais un peu méchant avec le rétro gaming, mais finalement, est-ce que tabler finalement uniquement sur le jeu vidéo, parce qu'on n'est pas aussi le jeu vidéo indépendant, on n'est pas aussi sur une certaine image du bon goût. Je lis Deleuze, j'écoute du jazz et je joue à des jeux indés.
Bah, nous sommes quand même au Centre Pompidou, un établissement culturel un peu élite. Non, je plaisante. Pas du tout. En fait, le jeu vidéo indé, déjà c'est bien de le faire découvrir parce que il est finalement dans à peu près les rencontres, quand je fais une après-midi comme ça, j'ai à peu près une trentaine de personnes qui passent pendant les 4 heures pendant lesquelles je fais ces animations. Et sur l'ensemble, je dirais sur les 120 personnes qui ont pu passer, je dirais qu'il y a peut-être 15% d'entre eux qui connaissent les jeux, et voire même certains qui connaissent tous les jeux que je présente. Ceci n'empêche pas qu'ils peuvent aussi ramener des connaissances à eux pour les faire découvrir au sein d'une bibliothèque en disant « Tiens, ben, j'ai découvert ça, viens voir avec moi. » Ou l'inverse, des gens qui ne connaissent pas du tout, des gens qui accompagnent d'autres personnes. Du coup, là, ma médiation va consister à expliquer quels sont les jeux, pourquoi ils ont été choisis, dans quel cadre pour Prestart, et ensuite d'amener les gens qui, par exemple, sont venus avec un enfant en disant Kevin, il adore les jeux vidéo, donc je vais l'installer sur un... Mais vous aussi, moi j'aime pas tellement ça. Alors, j'explique le fonctionnement du jeu et finalement j'arrive à en accrocher quelques-uns dans ce lot-là. Donc c'est pas du tout. Je ne considère pas du tout le jeu vidéo indépendant comme élitiste. C'est juste qu'il n'a pas les mêmes circuits de diffusion et voilà, il a juste besoin d'être mis en avant.
Bah, tu vas réagir.
Alors, je voudrais juste préciser quelque chose. Bib Invaders n'est pas que du rétro gaming. On a vraiment touché à tout à travers ça, y compris du jeu indépendant. Juste pour la parenthèse, avant j'étais au Taillant pendant 8 ans, animateur multimédia. Et on a une belle médiathèque qui s'est montée il y a 2 ans. dans laquelle on a eu la possibilité d'acheter du très bon matériel, etc. Et effectivement, on avait donc 4 PS4. Et en fait, constamment, donc j'ai vu que tu faisais tourner tous les mois et demi à peu près. Bon, moi, j'étais plus vache, c'était toutes les semaines. Mais ça revenait tous les mois et demi. Et en fait, on prenait sur chaque console un genre de jeu différent. Il y avait le jeu à plusieurs. Il y avait le jeu avec de l'esthétique, souvent du jeu indépendant. On avait le jeu d'aventure. Enfin voilà, on avait vraiment, et le jeu adulte, pour que les grands aussi puissent jouer. Et notre objectif, c'était vraiment de faire découvrir aux gens qu'ils pouvaient trouver un jeu qui leur était adapté. Donc c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que les parents qui viennent, les gamins automatiquement, ils voient un écran, ils foncent. Voilà. Ah bah oui, est-ce qu'il peut jouer? Oui, oui, bah. Le parent s'assied à côté, puis on repasse une demi-heure après, il est en train d'expliquer à son gamin comment on fait, etc. Donc il y a vraiment, au niveau du jeu vidéo, la possibilité de rassembler les gens. Et ce qui est important, je pense, dans notre travail de vidéo-ludothécaire, voilà, un nouveau métier à rajouter dans la liste, c'est important de connaître les jeux et de pouvoir faire entrer les gens dedans, de pouvoir leur montrer que tout le monde a son jeu qu'il attend quelque part. Quoi. Il faut juste le trouver, il faut l'avoir sous la main, et il faut pouvoir accompagner les gens dedans. Parce que j'ai vu, je suis sûr que ça n'arrive plus, mais j'ai vu souvent des structures ouvrir en faisant « on va faire du jeu, hop, on met une console, on met Mario Kart, et voilà, on fait du jeu. » Et puis effectivement, ça marche, Mario Kart, les gamins ils viennent, ils jouent à Mario Kart, mais c'est pas vendre du jeu vidéo. Quoi. Ce serait comme dire « on va faire la littérature, on met la collection, on met tous les vies, voilà. » Voilà, allez, on fait de la littérature, il y a tout Lévi. Ce serait un peu dommage.
Quelque chose contre Lévi, non c'est...
Non, pas du tout. Mes collègues l'adorent.
les ludothécaires parlent de... Justement, pour arriver à mettre, ils parlent de mise en jeu. Alors, je parle sous le contrôle de tous les ludothécaires présents. Ça va, j'ai perçu de tomates, c'est bon, tout va bien. Justement, et on avait évoqué aussi cette difficulté à mettre aussi un public face à un genre de jeu auquel il n'a pas l'habitude de jouer. Effectivement, Mario Kart, c'est un jeu qui est assez connu, et donc on a un public qui connaît déjà les codes du jeu. Lancer sur du jeu indé avec des mécaniques de jeu très spécifiques, c'est un peu plus compliqué. Et souvent, moi, ce que je vois dans mon espace jeu vidéo, c'est quand on ne les accompagne pas, quand on ne fait pas cet effort de mise en jeu, au bout de 10 minutes, ils reviennent, ils nous rendent la manette et ils nous disent j'aime pas, ça me plaît pas, et souvent ça cache un... En fait, j'ai pas compris comment le jeu marchait. Comment est-ce que vous faites justement pour arriver à accompagner le public, à le lancer, lui donner envie, enfin voilà. Bref, comment on fait une mise en jeu de jeu vidéo?
Pour ma part, de toute façon, le jeu vidéo indépendant, en général, n'est présenté que dans le cadre de press start et que dans le cadre de médiation. Donc ça passe forcément par de la discussion. On n'essaie pas de convaincre les gens, mais on leur explique vraiment le fondement du jeu et ce que le gameplay va vous amener à faire, le mode de jeu. Après, pour ce qui est des jeux qui sont mis en accès libre tout au long de l'année, je ne m'interdis pas non plus, puisque ce sont des consoles et que certaines... Enfin, il y a des possibilités d'avoir du jeu indé sur console, puisque un jeu comme Limbo, qui est un jeu très arty pour le coup, avec une ambiance noir et blanc un peu effrayante, dans lequel un petit garçon doit subir plein d'épreuves dans un univers très sombre, très burtonien, à la Tim Burton, un peu comme dans les films... ça fonctionne quand même pas mal, parce qu'il y a cet aspect graphique. Mais on peut être très étonné parce que pour ressortir du jeu indépendant, un jeu comme c'est Farming Simulator marche étonnamment bien en bibliothèque. Quand je l'ai mis, on m'a regardé avec...
C'est peut-être un besoin des Parisiens aussi de renouer avec la nature, non ?
C'est pas impossible. Mais pour ma part, je ne suis pas très jeu de simulation déjà à la base, et en plus un jeu de ferme, du coup je dépasse mes propres envies, du coup on fait une véritable offre de bibliothécaire, on offre du Marc Lévy également, et voilà, un jeu comme Farming Simulator marche très très bien, sans forcément du coup passer par une grosse médiation, pour des Parisiens.
Je sens la salle réagir. Il y a des fans de Farming Simulator peut-être, ou non ? C'est bon ?
Alors moi, je vais juste vous dire un truc qu'on m'a appris quand je suis arrivé dans le métier. C'est que si on doit faire du prêt en tant que bibliothécaire ou ludothécaire ou quoi que ce soit, on peut avoir des bornes automatiques qui font ça très bien. Si c'est pour faire du catalogage, maintenant on télécharge, tout est fait. Donc le cœur de notre métier, c'est vraiment la médiation. On est là pour être sur le terrain et on est là pour accompagner les gens. Si on les accompagne pas, excepté les vrais curieux, les gens vont prendre ce qu'ils connaissent. Et puis quand ils auront fini, voilà, ah j'ai lu tout Daniel Steele, vous avez autre chose. Bah, si on n'est pas là pour répondre, ils vont dire bon bah voilà, j'ai tout lu, je vais aller voir à côté. Pour le jeu vidéo, c'est exactement pareil. Si on met du jeu vidéo, mais qu'il n'y a pas quelqu'un derrière pour expliquer ce que c'est, diriger les gens, leur faire découvrir, ça ne sert à rien. Donc, si vous mettez du jeu vidéo, pensez à recruter un vidéoludothécaire. Non, il faut vraiment penser médiation. C'est ça, c'est vraiment ça que je considère être notre cœur de métier, et ça, quel que soit le support. Que ce soit la musique, le cinéma, le livre ou le jeu vidéo, c'est pareil.
On passe aux questions. Oui. Ah, voilà, plein de mains levées. Quoi, c'est Deleuze? J'ai rien contre Deleuze et j'écoute du jazz, hein, je vous préviens tout de suite.
Alors, juste une petite par rapport à quelque chose que tu viens de dire. Il n'y a pas de puzzlothécaire, ni de dinettothécaire, ni de caplathécaire. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait des vidéoludothécaires. Je veux dire, c'est du jeu. À partir du moment où c'est du jeu, ça rentre tout à fait et à part entière dans le champ de ce que peut faire une ludothèque. Il n'y a pas à créer, à mon sens, un métier spécifique parce que c'est déjà complètement dedans. Et je renforce, alors pour le coup, ce n'est pas du tout une question. Je renforce avec ce que tu viens de dire après, c'est que sur la question du jeu, on rencontre exactement la même chose. C'est-à-dire pour la mise en jeu, quand je parlais tout à l'heure du anima, quand on amène des gens qui sont face à une boîte, qui a une règle dedans, qu'ils ont des difficultés à rentrer dans la règle, tout le travail du ludothécaire, c'est justement ce travail de médiateur, d'amener à des nouveaux jeux, d'amener à des jeux d'auteur, d'amener à de la création contemporaine. Il y a aussi des cycles de rétro gaming dans le jeu boîté. Et on peut en imaginer aussi dans le jouet, notamment autour du jeu d'assemblage ou de choses comme ça. Donc en fait, tout ce que tu mets dans le champ du vidéo ludothécaire, je pense qu'on peut enlever vidéo.
Alors, je vais préciser quelque chose. Moi, en tant qu'animateur multimédia, j'ai recommandé des gens sur la BD, sur la musique, le cinéma, la littérature. C'est pas mon champ. Mais il y a des choses qui m'intéressent, sur lesquelles j'espère avoir un minimum de compétences. Je rassure mon chef, oui, j'en ai un petit peu, j'ai vu d'autres choses. Donc, quand je dis vidéo ludothécaire, c'est juste que j'ai vu trop souvent des gens poser des jeux vidéo et dire, de toute façon, les gamins, ils savent, ils jouent et basta, quoi. Pas besoin de connaître. Et j'ai des collègues qui est... Enfin, j'ai la responsable musique qui s'occupait aussi du multimédia. Pareil, qui mettait les gamins, qui disait, tu veux jouer à quoi? Tiens, bah, voilà la manette, voilà, t'as une heure. Bah non, non, non. Donc, oui, effectivement... Je suis d'accord pour dire que le vidéoludothécaire peut être un ludothécaire, mais il peut aussi être un bibliothécaire. Ça ne me gêne pas. L'important, c'est juste que la personne s'intéresse à ce qu'elle va proposer et qu'elle ait au moins la curiosité de regarder ce que c'était pour pouvoir renseigner la personne. Après, les termes, j'avoue que moi, si on dit médiathécaire pour tout le monde, ça me va très très bien. Après, ça ne veut pas dire que les compétences qu'on a en bibliothéconomie, enfin pour les livres, ou pour la musique, ou pour le jeu vidéo, sont les mêmes. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Moi, en tant que bibliothécaire, je veux bien faire une formation ludothécaire pour pouvoir faire du jeu. Et j'en aurai besoin. Je ne vais pas m'improviser ludothécaire. Parce qu'il y a des règles, il y a des façons de faire, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je pense qu'on peut apprendre tout au long de sa vie. Ce n'est pas parce qu'on a été formé au début pour les livres qu'on ne fera des livres que toute sa vie. Voilà.
J'ai une question pour M. Guillemot. Vous dites que vous faites du jeu indé uniquement lors de Prestart ou d'autres événements. Si lors d'un de ces événements, je joue à un jeu indé, disons Journée ou Limbo, comme vous dites, ou ce que vous voulez, si je reviens dans votre espace en dehors de cet événement, je ne peux pas y jouer. Excusez-moi. La quatrième plus grosse chaîne de YouTube a fait un let's play de Farming Simulator l'an dernier. Donc je pense que ça fait de la médiation pour vous aussi. Mais sinon, voilà, pour la précision, s'il vous plaît.
Alors, plus il y a de médiation autour du jeu vidéo, quelle que soit la source, mieux c'est. Et ensuite, effectivement, nos collections ne sont pas accessibles autrement qu'au travers des médiations qu'on fait, en fait. Quand nous faisons une thématique avec les cas de console, les jeux ne sont accessibles qu'à ce moment-là. Et après, on les remet dans les boîtes. On ne s'interdit pas de les ressortir. Mais comme on a une actualité du jeu vidéo suffisamment forte pour pouvoir ressortir des jeux et de changer à chaque thématique, de reproposer des nouveautés, on ne se prive pas de le faire. Voilà. Effectivement, nos jeux, après, en général, on les... Alors, dans l'avenir, dit l'horizon de 2019, la bibliothèque publique d'information va être rénové et le service nouvelle génération va être crédité d'un espace pour ses activités et à ce moment-là j'espère que nous aurons un espace avec une médiation permanente qui nous permettra d'offrir effectivement ces jeux à la demande, ce qui pour l'instant n'est pas possible puisque l'espace jeux vidéo que vous avez vu qui se trouve à l'entrée de la bibliothèque en fait est un espace en accès libre et ce sont les collègues de l'information générale qui font, alors du coup pas la médiation mais qui font juste le don de tickets pour réserver des consoles. Mais effectivement, le jour où le service nouvelle génération sera doté d'un espace à part entière avec une médiation permanente, j'espère qu'on arrivera effectivement à proposer du jeu vidéo à la demande. Et en plus, proposer du jeu vidéo indépendant à la demande, ça sera formidable.
Oui, excusez-moi, je suis là. C'est très perturbant, je le sais, je suis passée. Donc j'étais là, je suis là, maintenant c'est moi qui parle. c'était juste pour revenir sur tout à l'heure ce qui a été dit rapidement, mais quand même, moi, dans ma ludothèque, je ne vois pas une machine faire du prêt. Ce n'est pas possible. Les gens qui viennent dans ma ludothèque, qui viennent chercher du conseil, ils viennent chercher un accompagnement dans leur choix, et ils aiment beaucoup, beaucoup quand ils repartent avec la règle du jeu, c'est-à-dire que je leur ai fait une mise en jeu rapide, et ils rentrent chez eux, ils savent jouer. Donc ça, une machine encore, aujourd'hui, je crois que ça n'existe pas. Je crois. J'ai juste précisé ça.
Il y a des distributeurs qui existent. Il y a des bibliothèques.
Ça ne fait pas ce que les gens viennent chercher.
Non, on est tout à fait d'accord. Je disais juste que les machines existaient, mais après, je pense qu'avec Walid, vous êtes tout à fait d'accord.
Et alors, comme ma voisine le précise, ça n'existe pas du tout, les distributeurs pour les jeux. Nous n'en sommes pas là, nous, encore.
Pour les jeux, non, mais en tout cas, pour les livres, il y en a plein.
Je précise juste la chose. Quand je parlais de médiation... C'est bien accompagner les gens. C'est pas être. Ouais. Dans les bibliothèques, les livres, ça arrive. Mais la phase de médiation doit être, enfin, elle doit être présente, quoi. Après, les gens qui passent sur une borne devant, alors ça dépend aussi de la taille, de la structure. Ça joue beaucoup aussi, je pense. Après, pour le jeu, je suis entièrement d'accord.
Ouais, on a une autre question là-bas au fond.
Alors, ce sera la dernière question.
C'est encore à chaque fois, Philippe, tu fais toujours la dernière question.
C'est la BDP encore, hein, ça.
Rebonjour, pardon. Je m'interroge beaucoup sur ce que vous venez de dire, sur les gens viennent dans ma ludothèque et ne viennent pas, ils viennent pas chercher que du prêt. Moi, je vais fréquenter une ludothèque où ça m'arrive d'aller chercher que du prêt. Je m'interroge beaucoup en fait, sur la représentation qu'on peut avoir, et je me mets dans le panier, hein, en tant que bibliothécaire, des usages qui sont faits de nos lieux. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a à définir les usages de nos lieux ? C'est une vraie question. Et du coup, dans le terme de jeux vidéo, je rebondis sur l'histoire du jazz, qui était très rigolote, hein, mais c'est une vraie question aussi. C'est-à-dire,
c'était une blague. Hein,
je sais, pas de souci. Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire, si demain, les jeunes ou les moins jeunes, ils ont envie de faire que du FIFA, est-ce que c'est vraiment un souci ?
C'est une excellente question. C'est la question du... Mais c'est ce que j'essaie de souligner, en fait. C'est la question du bon goût et des usages légitimes en bibliothèque, effectivement. Non, mais on est d'accord.
Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour ces échanges passionnants.
Merci.